La facturation électronique devient obligatoire pour toutes les entreprises françaises en septembre prochain. Pour les éditeurs de logiciels, cela signifie une réforme complexe à prendre en charge. Mais cette complexité, vous n'avez pas à la porter seul. Iopol vous permet d'intégrer une infrastructure de plateforme agréée directement dans votre logiciel. Vous restez éditeur, nous prenons en charge la conformité réglementaire. Une solution conçue pour les développeurs, rapide à intégrer et compatible avec vos workflows existants. Anticipez la réforme dès maintenant avec Iopol.
Cet épisode de L'Heure du Monde est soutenu par Audi Business. Aujourd'hui, les critères environnementaux prennent une place croissante dans les décisions de flotte des entreprises. L'Audi Q6 e-tron répond à cet enjeu. Première et unique de son segment à obtenir le label EcoScore avec 70% d'abattement sur l'avantage en nature et 120 euros d'économie mensuelle. Tous les détails sur audi.fr. Audi Business est le programme sur mesure dédié aux professionnels. Au 18 juin 2026, l'Audi Q6 e-tron Performance est le premier SUV du segment B à obtenir le label EcoScore. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Papa, je voulais te parler d'un truc, tu peux venir.
Vous entendez cette voix un peu crispée ? C'est quand j'essaye de parler en me retenant de pleurer.
Oui.
Oh, je sais pas pourquoi ça m'émeut. Et du coup...
Là, ce que je tente de demander à mon père, en pleine vacances familiales du mois d'août, c'est qu'il me parle de sa famille et de l'histoire de son pays, l'Espagne.
Allez, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30.
Je suis dans la maison de ma grand-mère maternelle, sur l'île d'Oléron.
Et je n'ai que des consonnes qui me restent.
Moi, je n'ai que des O.
Elle me parle souvent de son enfance à Paris. Elle répond à toutes mes questions sur l'occupation allemande, la Seconde Guerre mondiale, sa vie d'adulte française au XXe siècle. Et puis, c'est une histoire que j'ai étudiée, que je connais.
C'est à toi, maman.
Oui.
Mais de l'autre côté de la famille, c'est beaucoup plus flou. L'Espagne, je n'y suis allée que quelques fois en vacances. Je ne connais ni son histoire, ni sa culture. Et depuis une dizaine d'années, je ressens comme un manque. Déjà, ça m'agace de ne pas être aussi à l'aise que je l'aimerais en parlant espagnol.
Ah, si. Porque... Je peux dire qu'on sera à, à Barcelone.
Estaremos en Barcelona.
Et puis, je suis toujours un peu gênée quand on me demande mon nom de famille. Parce qu'en fait, je ne sais jamais vraiment comment le prononcer.
Oui, Garance Munoz. M-U-N-O-Z. Munoz. M-U-N avec un tilde. C'est, vous savez, la petite vague sur le N. En espagnol, oui.
En fait, j'ai l'impression qu'une partie de mon identité m'échappe. Et que si cette langue, ce nom se dérobe, c'est le symptôme d'un manque, d'un silence sur une partie de mon histoire. Et le seul à pouvoir encore répondre à mes interrogations, c'est mon père, Enrique. C'est pour ça que, cet été-là, je me mets à lui poser plein de questions.
Mais le père de Nano, il est mort...
Alors, lui, le père de Nano, lui, il est mort en 38, mais c'était la bataille de l'Ebre, dans le nord de l'Espagne. Lui, il est grand combattant, en fait. Et moi, ce que je sais, c'est que son corps n'a jamais été retrouvé. Il y a peut-être des fosses communes qui sont effectivement des fosses communes près des lieux des combats, ça, c'est possible.
Et en tout cas, personne n'a jamais contacté Naomi ou je sais pas quoi pour dire bon bah c'est cette fosse commune où il y a
pas,
eu...
Pas à ma connaissance.
Nano, c'est le surnom du surnom de ma grand-mère. Elle se faisait appeler Naomi parce qu'elle détestait son vrai prénom, Dolores, qui signifie douleur en espagnol. Son père, mon arrière-grand-père donc, est mort quand elle avait 7 ans. C'était pendant la guerre d'Espagne. Il a été tué par les troupes de Franco en 1938. Ils n'ont jamais récupéré sa dépouille et elle ne m'a jamais parlé de lui lorsqu'elle était encore en vie. Je sais juste qu'elle regardait tous les documentaires sur la guerre d'Espagne qui passaient à la télé en espérant tomber sur une photo de son père. L'histoire de ma famille, comme celle de milliers d'autres descendants de républicains espagnols, a été modelée par la grande histoire, celle de la guerre d'Espagne.
Un putsch comme détonateur. Un État qui s'effondre. Une révolution. Et très vite, une guerre totale qui a déchiré l'Espagne, terrorisé la population et divisé jusqu'au cœur des familles.
En parlant avec mon père, je veux juste en apprendre davantage sur l'histoire de l'Espagne. Un peu mieux comprendre d'où je viens pour mieux comprendre qui je suis. Mais je ne m'attendais pas à être à ce point submergée par mes émotions.
Mais en cherchant...
Allez.
Qu'est-ce qu'il y a?
Ça va, on va pas...
C'est à propos de quoi, de boulot? Oui, mais non, mais tout va bien, c'est juste un projet.
C'est la guerre d'Espagne, voilà.
Pourquoi est-ce que je m'effondre comme ça? Pourquoi ça me donne un tel vertige d'apprendre que personne ne sait où se trouve le corps de mon arrière-grand-père? Peut-être parce qu'on parle d'événements violents, la guerre, un deuil sans corps, une dictature brutale, l'exil qui a suivi, tous ces événements que je connais si mal, qui sont si peu enseignés à l'école, alors qu'ils concernent des centaines de milliers de descendants d'Espagnols en France, environ 500 000. Un demi-million de personnes qui sont peut-être comme moi, dans l'ignorance et le silence des gorges serrées. D'ailleurs, et ça aussi ça me surprend, je vois bien que lui aussi est très ému. Il n'est pas du tout du genre expansif, mais à la fin de cette discussion, une petite larme finit par couler sur le visage de mon père. À ce moment-là, une envie émerge en moi. Et si on partait ensemble à la recherche du corps de mon arrière-grand-père ?
Les hommes les plus héroïques du monde, les plus grands hommes d'Europe, sont les fils de l'Espagne.
Franco est le dernier dictateur d'Europe occidentale. Son régime a commencé à peu près en même temps que ceux d'Hitler et Mussolini. Mais contrairement à eux, il a survécu à la fin de la Seconde Guerre mondiale et a réussi à conserver son pouvoir jusqu'à sa mort en 1975. Moi, je suis née 20 ans plus tard et je ne connais rien, ou si peu, sur l'histoire de ce pays que je n'ose jamais appeler le mien.
La personne sacrée de l'Espagne est en danger.
Vamos contra el fascismo!
Los hombres más heroicos del mundo!
Le mot de passe arrive à l'Espagne.
J'ai enquêté sur la mort de mon arrière-grand-père républicain espagnol et la mémoire des victimes de la dictature franquiste. Je m'appelle Garance Muñoz et vous écoutez Espagne, l'écho du silence, une série historique et intime réalisée par Amandine Robillard. Premier épisode, Arriba Espagne. Cette chanson s'appelle « Cara al sol », « Face au soleil », et c'est la chanson franquiste par excellence. Un hymne nationaliste officiel choisi par Franco en 1937, en pleine guerre d'Espagne, et qui fait complètement partie de la culture espagnole d'extrême droite, encore aujourd'hui. En décembre 2024, par exemple, des élèves de terminale se filment en train de la chanter. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a quand même un consensus historique aujourd'hui pour dire que le franquisme était une dictature militaire violente qui a tué des centaines de milliers de personnes, torturé des prisonniers, condamné des innocents au travail forcé, jeté des milliers de personnes dans des fosses communes. Et pourtant, en Espagne, beaucoup semblent ne pas condamner le franquisme. Comme si les Espagnols, qui ont vécu le même passé, la même histoire, ne partageaient pas la même mémoire. Alors pourquoi de jeunes lycéens trouvent ça normal de chanter un tel chant? Comment expliquer que le travail de mémoire semble aussi peu abouti en Espagne? Pour comprendre, je veux d'abord interroger l'histoire, et donc des historiens. Alors je prends le train pour Toulouse. À quelques arrêts de métro de la place du Capitole, je marche vers l'université Toulouse Jean Jaurès.
Enchantée. Merci beaucoup.
J'ai rendez-vous avec l'historien François Godichaud. Je lui parle de cette vidéo des lycéens. Il n'est pas étonné.
En Espagne, vous avez des collégiens qui, quand le prof raconte la guerre d'Espagne, se lèvent et se mettent le bras en l'air en criant « Arriba Espagne ». Il y en a 1, 2, 3, 10 qui font ça. Aller réagir comme enseignant, c'est pas évident.
« Arriba Espagna », ça signifie « Debout l'Espagne ». C'était un cri de ralliement des partisans de Franco. On l'entend d'ailleurs dans la chanson « Cara al Sol ».
Arriba Espagna !
François Godichaud vient justement de publier une nouvelle histoire de l'Espagne où il explore le processus de fascisation qui, à partir des années 30, mène à la dictature franquiste et dont les traces perdurent encore.
L'enseignement sur la guerre et le franquisme a été très peu diffusé par le système scolaire espagnol. Il est toujours marginal. Dans beaucoup de familles, ce qui domine, c'est la réitération de ce que le franquisme a raconté de lui-même et a raconté sur la guerre, qui n'a jamais été dissous par un enseignement de qualité sur le passé.
Donc, pas d'enseignement sur l'histoire du franquisme en Espagne, mais il y a aussi autre chose. Il n'y a pas vraiment eu de condamnation de Franco au niveau international.
Le fait que le franquisme ait échappé à la condamnation morale absolue qui a pesé sur le nazisme et sur le fascisme, cela est un élément essentiel de la revendication sans complexe du franquisme aujourd'hui en Espagne.
Pourquoi une telle complaisance ? La réponse tient en deux mots, la guerre froide. Les puissances occidentales ne voulaient pas que l'Espagne rejoigne le bloc soviétique et préféraient comme voisine une dictature plutôt qu'un gouvernement qui risquait d'être bienveillant envers l'URSS. Elles ont donc accepté que Franco reste au pouvoir. Et ça fait partie des éléments qui permettent aujourd'hui à la droite espagnole de se revendiquer presque sans complexe du franquisme.
Honneur, fidélité et sacrifice, que ces principes dirigent notre âme.
Franco, comme d'autres dirigeants européens durant le siècle passé, voulait vraiment offrir une meilleure qualité de vie à son peuple.
Pour notre nation, pour notre race, pour nos jeunes et nos grands-parents, debout l'Espagne, debout l'Europe.
Ce que vous entendez, ce sont des porte-paroles de partis d'extrême droite, d'influenceurs, de youtubeurs surnommés Fachatubers pour youtubeurs fascistes. Ils n'hésitent pas à adopter les codes du franquisme, souvent à grand renfort de musique épique. Parmi ces Fachatubers, l'un des plus populaires s'appelle Infovlogger. En octobre 2022, il avait chanté sur la scène d'un meeting politique une chanson dans laquelle il répète « Nous allons revenir en 1936, l'année du début de la guerre d'Espagne ». D'après les médias espagnols, il y aurait une cinquantaine de comptes à plus de 100 000 abonnés au service des discours d'extrême droite et qui profitent aux partis qui défendent ces idées. Vous allez me dire, un peu comme partout, non ? Eh bien, pas vraiment. On aurait quand même du mal à imaginer en Allemagne un parti se présenter en revendiquant haut et fort être un parti nazi, ou pire, que le parti nazi lui-même existe encore et se présente à des élections.
On regarde toujours le traitement du passé, de la mémoire, de l'histoire côté allemand, où effectivement on sait en France à quel point il est interdit de brandir des symboles nazis, de faire l'apologie du nazisme, etc. Évidemment, en Espagne, c'est tout le contraire et il peut y avoir toute manifestation ou meeting avec des symboles phalangistes.
En Espagne, le parti de Franco, la Falange, le seul parti légal pendant la dictature, existe toujours.
Non seulement la Falange n'est pas interdite, mais on peut se revendiquer même encore plus aujourd'hui du franquisme qu'il y a 20 ans. En témoigne l'attitude du Parti populaire, dont le dirigeant historique José María Aznar, qui disait que si on lui demandait de condamner le coup d'État du 10 juillet 36 et puis de condamner le franquisme, il ne pouvait pas, parce qu'il ne pouvait pas condamner quelque chose auquel avait adhéré son papa.
Je crois que ça veut tout dire. En Espagne, les politiques s'inscrivent dans la lignée de leurs aînés. Et quand on est à droite, même la droite républicaine, la lignée, c'est le franquisme. Bon, je caricature un peu, mais ce qui est sûr, c'est que bon nombre des dirigeants du Parti populaire sont issus directement des cadres franquistes de la dictature. Idem pour Vox, le parti d'extrême droite. Son président actuel, Santiago Abascal, est le petit-fils d'un maire franquiste d'une ville du Pays Basque. En 2019, un journaliste l'interrogeait d'ailleurs sur ce qu'il pensait de la figure historique de Francisco Franco.
La figure de Franco, qu'est-ce qu'elle signifie pour toi ?
C'est une figure historique que les historiens vont juger. J'espère qu'ils le feront de manière libre. Et je crois que les Espagnols ont des opinions très diverses. Vox n'a pas de position sur Franco.
Vox no tiene una posición sobre Franco.
Là, il faut un peu expliciter. Ce qu'il dit, c'est que les historiens font leur travail de leur côté et que ça n'empêche pas d'avoir sa propre opinion. Que peu importe ce que les historiens en disent, ils ne voient aucune raison de condamner le franquisme. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il a une mémoire positive de la dictature. Et c'est loin d'être le seul en Espagne. Je me demande comment ce récit, aussi accommodant avec le régime franquiste, s'est imposé. En fait, il y a une forme d'ambiguïté mémorielle en Espagne. Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas eu de condamnation du franquisme à l'international, mais à l'intérieur du pays aussi, Franco s'en est très bien sorti. Car contrairement à ses alliés Hitler et Mussolini, lui, il a gagné sa guerre. Et il est resté très longtemps au pouvoir, presque 40 ans. Il a donc eu tout le temps qu'il lui fallait pour fabriquer le récit de sa victoire et de son régime. Récit qui n'a jamais vraiment été remis en question.
En Espagne, effectivement, il y a toujours ce que j'appelle cette espèce de chuchotement, ce bruissement, ce que d'aucuns appellent le franquisme sociologique.
Sophie Babi est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne-Europe. Elle est spécialiste de la transition démocratique en Espagne et elle a accepté de venir me voir à Paris, dans les studios du Monde. Je lui ai demandé comment les Espagnols justifiaient cette vision positive de Franco.
C'est ce bruit qui consiste à dire bah, que sous Franco, on vivait mieux, qu'on vivait pas si mal, et puis que Franco, bah, il n'a pas été si horrible que ça, que la modernisation, la paix, tous ces éléments de propagande de la légitimité d'exercice sont repris, sont présents, n'ont jamais été totalement coupés à la racine, en fait, n'ont jamais disparu.
La dictature a pris fin en 1975. Comment explique-t-on que ce discours soit resté aussi puissant ?
Parce que donc, la droite espagnole n'a jamais rompu avec l'héritage du franquisme. Et puis, surtout, un discours de blanchiment, en fait, d'édulcoration de ce qu'a été le régime, en disant qu'il n'a pas été si mal. Et c'est ça qui permet à des enquêtes comme celle toute récente du CIS, du Centre de Recherche Sociologique en Espagne, qui permet de conclure sur le fait qu'un cinquième des Espagnols, et en particulier des jeunes, et en particulier des jeunes hommes, considèrent que sous Franco, la vie n'était pas si mal, que les Espagnols vivaient bien, voire très bien. Sans être des néo-franquistes, des jeunes hommes peuvent très facilement s'identifier à la figure de Franco, sans savoir véritablement ce qu'a été ce régime et sans être vraiment alertes sur l'ampleur de la répression qui a fondé la nature même du régime dans les années 40.
Eh bien, moi, c'est ça dont j'ai envie. Comprendre ce qu'a été ce régime, comprendre comment il s'est installé et comprendre ce qu'a vécu ma famille. Et pour ça, je veux d'abord en apprendre davantage sur cet arrière-grand-père, celui qui est mort pendant la guerre et dont je veux retrouver le corps. Alors, je me rends chez mes parents pour chercher dans les vieux papiers de mon père. Il existe plusieurs associations espagnoles qui aident les familles à retrouver leurs disparus. Leurs sites internet sont très bien faits, mais il faut avoir un minimum d'informations. Et mon père est loin d'avoir tout ce qu'il faut.
Voilà, il y a un truc, reclama un desaparecido. C'est ça, non ? C'est nous ?
Oui, alors un desaparecido, oui, c'est un... Oui. Oui, alors le problème, c'est que... D'abord, le deuxième, el segundo apellido, je m'en souviens plus trop. Je crois que c'est José Molina Pérez. J'en suis pas sûr.
Oui.
Et puis, tu vois, je t'ai dit Pérez et là, je disais López. Je ne sais plus quel est le deuxième apellido de mon grand-père.
Ça, c'est un gros problème. On doit absolument entrer les deux noms de famille de mon arrière-grand-père. Alors, on fouille les archives militaires.
Liste des... Ah oui. Lista de fallecidos. Et ça y est. Fallecidos. Fallecidos. Deux L.
On envoie des demandes d'actes de naissance.
Hola. Quisiera obtener los nombres y apellidos de los padres y madres de Dolores Molina.
Et on envoie à qui on peut les informations qu'on a déjà, son prénom, José, son lieu de naissance, la Calahorra, un village près de Grenade.
Atentamente, Enrique Muñoz Molina.
L'année de sa mort, 1938, mais on n'a pas de date plus précise. On dit aussi au cas où qu'il était militant à la UGT, le syndicat du Parti Socialiste, et qu'il avait 4 enfants, dont ma grand-mère. Elle n'avait que 5 ans quand la guerre a commencé en 1936.
Ah oui, d'accord.
On envoie des dizaines de mails et on croise les doigts. À ce moment-là, et comme je suis bloquée dans mes recherches, ce qui m'intéresse le plus, c'est comprendre ce qui pousse un jeune père de 4 enfants à aller combattre à l'autre bout de son pays. Déjà, à quoi ressemble l'Espagne de mon arrière-grand-père à ce moment-là ?
Le 12 avril 1931, les candidats monarchistes se font battre aux élections municipales. Le roi Alphonse XIII se retire. C'est la République par surprise.
En 1931, l'Espagne devient une république. Et 5 ans plus tard, en janvier 1936, le Front Populaire, une coalition de partis de gauche et d'organisations ouvrières, gagne l'élection. C'est un peu le même genre que le Front Populaire élu en France au même moment.
Léon Blum conduit des réformes spectaculaires. La semaine de 40 heures et les premiers congés payés qui permettent à beaucoup d'ouvriers de partir en vacances pour la première fois de leur vie.
En France comme en Espagne, les avancées sociales et les grèves qui les accompagnent ne plaisent pas beaucoup à certains courants de droite. Surtout dans les campagnes espagnoles, où les petits paysans s'emparent de terres inexploitées. Alors la droite se rassemble dans l'espoir de renverser militairement la République. C'est ce que François Godichot appelle le processus de fascisation.
C'est un processus de fascisation de l'espace public qui fait que convergent autour de la proposition la plus radicale et la plus violente un certain nombre de forces qui viennent de divers horizons de la droite et qui finissent par considérer que aucune possibilité de réformer cette République pour en faire un régime d'ordre n'existe à l'intérieur de la République et qu'à partir de là, il faut aller résolument vers une stratégie de la tension, le coup d'État et le renversement de la République.
En agitant la peur du communisme et de la révolution, les fascistes vont convaincre l'armée qu'il est de leur devoir de protéger l'Espagne en réalisant un coup d'État.
La personne sacrée de l'Espagne est en danger. Au nom de l'Espagne éternelle, les carlistes, les monarchistes, la phalange, unis derrière la bannière de l'Église, préparent la révolte. De l'armée d'Afrique aux casernes de Burgos, circulent les mots d'ordre du complot, le mot de passe, Arriba Espagne.
Et c'est sur la base de cela que le coup d'État de juillet est réalisé, c'est-à-dire que cette préparation de l'opinion militaire est considéré comme nécessaire par les putschistes pour l'emporter. Simplement, ils ne l'emportent pas.
Le 17 juillet 1936, il y a exactement 90 ans, des généraux de l'armée espagnole lancent un coup d'État.
Francisco Franco déclare à la radio de Tétouan,
« Vous tous, qui ressentez le saint amour de l'Espagne, vous tous, qui avez juré de la défendre contre ses ennemis jusqu'à perdre la vie, vous tous, la nation vous appelle à sa défense. L'armée a décidé de rétablir l'ordre en Espagne. »
Sauf que la République résiste et que le coup d'État échoue. La guerre civile commence. L'Espagne se divise alors en 2 camps. Les partisans du coup d'État, qui suivent le général Franco et qu'on appellera les franquistes, et ceux qui défendent la République, les républicains.
Peuple d'Espagne, levez-vous. Défendez la vie de vos enfants. Tous contre le fascisme. Un seul front, une seule union. Côte à côte, jusqu'à ce que l'ennemi soit vaincu.
J'aurais aimé savoir ce que mon arrière-grand-père avait pensé de tout ça. Comment il l'a appris. S'il a décidé de prendre les armes immédiatement. Comment il a dit au revoir à sa famille avant de partir. En tout cas, je sais qu'il a choisi son camp. Celui des républicains. Prochain épisode, la République vaincue.
Quand on prépare un voyage, on pense aux billets, aux valises, aux maillots de bain, aux tongs et surtout aux souvenirs qu'on va ramener. On pense moins aux frais à l'étranger. Avec BNP Paribas, l'option Travel réduit vos frais de paiement et retrait partout dans le monde. Et avec les cartes Visa Premier ou Visa Infinite, profitez d'une assistance premium à l'international. Alors dans votre valise, n'oubliez pas BNP Paribas, le meilleur passeport pour voyager à l'étranger. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Voir conditions sur mabanque.bnpparibas.
Dépasser les limites pour réaliser l'impossible. Voici ce à quoi les ingénieurs Audi travaillent chaque jour. L'Audi Q6 Citroën 100% électrique est le premier SUV de sa catégorie labellisé EcoScore. Une prouesse technique qui offre aux professionnels de nombreux avantages fiscaux et toujours plus de valeur pour leur entreprise. Détails sur Audi.fr. Pensez à covoiturer.
À quoi ressemble la transition énergétique sur le terrain ? Le Courant Passe, c'est un podcast qui pose ce micro dans les usines, les gares, les bureaux des grandes organisations et partout où l'énergie se transforme. Dans Le Courant Passe, vous entendrez des conversations inédites entre chefs d'entreprise, députés, ministres, citoyens et citoyennes engagés. Retrouvez sans plus tarder Le Courant Passe, une série audio signée Rexel France, sur vos plateformes d'écoute préférées.